fait que, vous voyez, le lien entre la transmission, la, les valeurs universelles de la République est tout trouvé. Alors, pour reprendre la question, d'abord, je vais me présenter peut-être en deux mots. Je suis, moi, ce qu'on appelle un juif laïque, c'est-à-dire que je suis un athée convaincu. Et je ne garde une appartenance à une forme de judéité parce que ma famille a vécu pendant la guerre, c'est-à-dire Bordeaux, 8 déportés, en tout 10 déportés.
Je peux oui. citer une de tes phrases, s'il te plaît.
Oui.
Je l'interromps pour citer une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. Jean-Marie dit, je n'ai pas été élevé dans la Torah avec mon grand-père, j'ai été élevé dans la Shoah. C'est une phrase sur laquelle sera important de revenir peut-être tout à l'heure.
D'autant que ce n'est pas moi qui l'écris. C'est, oui. C'est le fils de Michel Sitowski. Voilà, donc, je peux revendiquer éventuellement. Donc, il est important, en tout cas pour nous, Bordelais, que ce soit des juifs laïcs qui déclenchent la procédure contre Papon et autres, parce qu'au départ, il n'y avait pas que Papon. Il y avait 5 inculpés, Jean Leguet, René Bousquet, Maurice Sabatier, René Téchouer et Papon. Pourquoi c'était important? Parce que on était les seuls au départ à se battre et on a vécu tout le procès, toute la procédure, c'est-à-dire la procédure elle a duré 20 ans, à peu près 20 ans. Moi je porte plainte en 81 avec mon père, ma grand-mère et une de mes cousines. Et nous avons toujours été présents dans la procédure, c'est-à-dire chaque fois que la procédure était annulée, chaque fois que la procédure revenait au départ, on revenait à notre dépôt de plainte initiale, ce qui fait que j'ai toujours été présent dans la procédure. Et j'ai assisté en plus à toutes les audiences du procès. Je peux dire que je suis un des rares et un des seuls, à part le juge et le jury, à avoir assisté à toutes les audiences du procès. Donc je connais parfaitement bien le dossier. Alors en quoi c'est important? Mais pour le procès Papon en tout cas, c'est parce que c'est la première fois et la seule fois que l'État français a été jugé et condamné à travers un de ses fonctionnaires pour la déportation des Juifs de France. Sans nous, il n'y aurait jamais eu de procès pour juger Vichy sur son rôle dans la déportation des Juifs de France. Voilà, c'est en ça que c'est quelque chose d'important.
Stéphane, même question.
Merci. Alors, moi, j'ai essentiellement travaillé sur le procès Barbie, qui est un procès d'une nature différente, et puis comme il y a eu plusieurs procès Barbie, c'est peut-être par là que je vais commencer, puisque la fonction du procès a changé. Barbie a été jugé 3 fois. On connaît évidemment le procès de 1987, mais il a été condamné en avril 1952 pour ce qu'on appelle les Pâques sanglantes de Saint-Claude, donc le 7 avril 1944 et les massacres qu'il a commis à Saint-Claude dans le Jura. Il a été condamné à mort par contumace. Il a été condamné à mort par contumace également en novembre 1954 pour ce qu'on appelle le procès de la Gestapo de Lyon avec une vingtaine de prévenus. Et il a également été condamné donc à mort par contumace. Et ces procès-là ont une fonction particulière qui n'est pas du tout celle évidemment du procès de 1987. Les procès de 52 et 54, déjà l'incrimination n'est pas la même, puisque Barbie est poursuivi pour crime de guerre. Alors que juridiquement, la justice avait la possibilité de le poursuivre pour crime contre l'humanité. Depuis l'accord de Londres et la création du tribunal de Nuremberg, c'est une incrimination qu'on pouvait utiliser en droit français. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on en a parlé avec Jean-Marie, la question du crime contre l'humanité, elle amenait immédiatement celle de la Shoah. Et en 1952 et en 1954, il n'était évidemment pas question de traiter cette question dans un tribunal. Et l'incrimination de 1987, elle, va amener, effectivement, va changer la fonction du procès. Pour deux raisons, c'est qu'elle va à la fois faire entrer le crime contre l'humanité dans une cour d'assises pour la première fois en France. C'est le premier procès français de crime contre l'humanité. Et surtout, ça va permettre de donner une autre fonction au procès qui n'a pas eu lieu au moment des crimes de guerre. Les procès de 52 et de 54, en plus, étaient menés par le tribunal permanent des forces armées. On n'est pas dans une cour d'assises, hein, c'est un tribunal militaire spécial. Et le procès de 87 va être une œuvre de transmission. C'est le sens du livre qu'on a fait avec Alain, c'est qu'on a eu, du 11 mai 1987 au 4 juillet 1987, des dizaines et des dizaines de témoins qui vont venir parler à la barre. Nous, on a voulu mettre en valeur la parole particulière des femmes, puisqu'elle signifiait aussi quelque chose dans la Shoah par rapport aux enfants, notamment aux enfants d'Izieux. Et on voit que la fonction a changé. Et alors, on n'est pas dans le même cas que pour Papon, puisque là, on jugeait le nazi, on ne jugeait pas le collabo. C'était le premier procès d'un nazi en France. Et donc, il y avait aussi cette fonction-là d'enfin aborder la question nazi sous un autre angle que celui des années 50, qui était finalement assez banal, qui était celui des crimes de guerre, avec des peines d'ailleurs. Alors, ceux qui ont été condamnés dans les années 50 ont été condamnés. Ceux qui étaient présents ont eu des peines assez modestes. Hein. Les adjoints de Barbie ont eu des peines. Certains ont eu jusqu'à 20 ans de travaux forcés, mais la loi d'amnistie de 55 a réglé le problème, en fait. Et ils ont été très rapidement relâchés. Donc, en gros, ils ont fait 10 ans de prison entre 44 et 54, 55. Donc, les peines n'ont pas été très lourdes, finalement. Et on voit déjà que la fonction du procès en 1954 n'est plus la même que s'ils avaient été jugés en 44 ou en 45. Il y a déjà une première évolution. Ouais. Et donc là, le retour du nazi est lié aussi au fait, et la fonction était aussi historique. C'est, si on a recherché à ce point Barbie, c'était pas ab initio à cause des enfants d'Izieux ou du convoi du 11 août ou de la rafle de la rue Sainte-Catherine, qui sont les trois chefs d'accusation. Si la persistance judiciaire dans l'affaire Barbie, c'est parce que c'était le tortionnaire de Jean Moulin et que Jean Moulin était entré au Panthéon. Et finalement, c'est le fait d'avoir tué Jean Moulin qui a permis de juger les crimes des enfants d'Izieux, les crimes de la rafle de la rue Sainte-Catherine et du convoi du 11 août. Donc cette fonction-là, elle a été aussi importante. C'est quand Barbie rentre dans la cour d'assises le 11 mai 87, c'est le tortionnaire de Jean Moulin qui entre pour l'opinion publique. Et quand il sort de la cour d'assises le 4 juillet, c'est l'assassin des enfants d'Izieux, c'est lui qui a fait le convoi du 11 août et c'est lui qui a assassiné les victimes de la rue Sainte-Catherine, dont le père de Robert Badinter. Donc cette fonction-là aussi, elle est intéressante dans l'évolution. On est entré avec un tortionnaire de la résistance et le procès de 87 a permis de juger un criminel contre l'humanité.
Ces procès, on le voit, ont eu lieu assez longtemps après les faits. Après les faits, double question. Pourquoi, d'une part, à votre avis, d'autre part, est-ce que ce n'était pas nécessaire qu'il y ait du temps qui passe?
Nécessaire qu'il y ait du temps qui passe? Non, on aurait pu juger de suite. Ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus de témoins vivants. Il faut bien comprendre que dans le cas d'un crime contre l'humanité, le temps profite toujours aux coupables, et jamais aux victimes. Alors, pourquoi ça a mis aussi longtemps? Mais simplement parce que, Stéphane en a parlé tout à l'heure un peu, c'est qu'on ne parlait pas de la Shoah, on ne parlait pas de la déportation. Les gens qui revenaient des camps, comme ma famille par exemple, il y avait une chape de silence, mais ce n'est pas que ma famille, hein, c'est toutes les familles juives qui ont vécu la même chose. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas, il ne fallait pas en parler. Récemment, là, j'étais à une conférence là-dessus d'une enfant de la troisième génération qui parlait de sa famille déportée. Et elle avait toujours dans sa famille une tante qui ne disait jamais un mot sur ce qui était arrivé à sa famille. Voilà, donc, premièrement, il y a ce silence-là qui a été après repris un peu par les politiques. C'est-à-dire que, par exemple, le 1er 11 novembre, après la libération, il y a des cercueils symboliques qui sont créés pour les résistants, pour l'armée, etc. etc. Il n'y a aucun cercueil pour les déportés. Et puis, il y avait cette fameuse légende de De Gaulle, que De Gaulle nous a imposée, c'est-à-dire que la France était à Londres et que ce qui était en France n'était pas la France. Et donc, la France n'était pas coupable. Et donc, la France n'a pas participé aux déportations. Il a fallu attendre 20 ans, dans les années 60, que deux historiens américains, Marius et Paxton, fassent un ouvrage historique, un vrai travail d'historien, qui expliquait le rôle réel de l'administration française dans la déportation des Juifs de France. Je prends un exemple à Bordeaux. Il y a, nous, on porte plainte donc en 81 avec ma famille. On déclenche la procédure en 81. En 83, donc deux ans après, il paraît un album de bande dessinée fait par Drago sur l'histoire de Bordeaux, fait par des historiens bordelais reconnus universitaires, incontestables. Et sur la page qui concerne la déportation, qu'est-ce qu'on voit? Un camion allemand qui charge les juifs et qui les envoie on ne sait pas où, là, puisque en fait à Bordeaux, il n'y a jamais eu un seul soldat allemand qui a arrêté un juif. 1597 déportés de Bordeaux ont tous été arrêtés, fichés, listés par la préfecture régionale de la Gironde et par la police française. Jamais un seul allemand n'est intervenu. Et donc, vous voyez que même après, en 83, c'est-à-dire bien longtemps après, on continuait à croire que la police française n'était pour rien et que l'administration française n'était pour rien. Il a fallu attendre, en fait, Chirac, 95, qui reconnaissait que la France avait commis l'irréparable. Voilà, donc c'est la raison principale, à la fois du côté des victimes qui ne disaient rien, qui ne voulaient pas, c'est trop dur à porter, et à la fois du côté officiel, on va dire, hein, où il y avait une chape dessus.
Et entre-temps, Maurice Papon est devenu préfet de police, est devenu ministre. Ouais. Ça aussi, ça a dû compliquer la...
Ça a pas Papon, enfin, je sais pas, vous savez, il y a un film là, qui était... Papon, il était socialiste, radical socialiste avant-guerre, pétainiste pendant la guerre. Pendant la guerre, il a deux promotions quand même. Il rentre secrétaire général, il sort préfet. Après-guerre, il est socialiste. Il est préfet IGAM à Constantine. À son retour sous De Gaulle, il devient gaulliste, résistant. C'est là qu'il obtient sa carte de résistant, qui est un faux monumental. Et il devient d'ailleurs trésorier du parti gaulliste de l'époque, le RPR, et après ministre du budget. Et... Donc si vous voulez, quand nous on porte plainte contre Papon, en fait on porte plainte contre un gaulliste, ancien ministre du budget. Et on avait l'opposition de toute la famille gaulliste qui nous était opposée. Il a fallu qu'on mette énormément de temps, jusqu'à la fin du procès, pour ainsi dire, pour prouver que Papon n'avait jamais été résistant, qu'il avait usurpé sa carte de résistant. Et voilà, on pourra en reparler éventuellement tout à l'heure, mais c'est arrivé très très difficilement et très tardivement. Par exemple, à Bordeaux, il y a le maire de Bordeaux, Chaban Delmas, résistant authentique, qui avait jeté un veto à toute personne pour nous aider. Le président de la LICRA, par exemple, de Gironde, a refusé de se joindre à nous au plaintes alors que son père avait été déporté par le et qu'on lui en avait amené la preuve. Le consistoire israélien de la Gironde a refusé de se joindre à nous parce que le président du consistoire était maire adjoint de Bordeaux. Il a fallu 7-8 ans de combat pour y arriver. Mais le jour, pour nous, c'est le jour de la victoire, c'est le jour où le consistoire israélien de la Gironde a décidé de se constituer partie civile, que toutes les grandes associations se sont jointes à nous. Les droits de l'homme, l'ICRA, les fédérations déportées, de résistance, etc.
C'est fait.
Sur le fait de juger longtemps après, alors, sur le procès Barbie, sur la recherche de Barbie, la situation est différente parce que rechercher un nazi, c'était évidemment plus facile à assumer que de rechercher un ministre et de le poursuivre. Dans le cadre de Barbie, d'ailleurs, on a le sentiment, quand on regarde l'histoire de loin, qu'on l'a laissé filer, etc. La France l'a recherché et elle l'a recherché activement. Mais si elle l'a recherché, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Jean Moulin, si elle l'a recherché activement, elle l'a même entendu quand il était en zone d'occupation britannique sous espion américain après la guerre, rémunéré par les Américains pour espionner en zone britannique, en Allemagne. Il est même entendu par des officiers, des commissaires français dans le cadre du procès de René Hardy, celui qui était soupçonné d'avoir balancé Jean Moulin. Et c'est sur cette question-là qu'on l'entend, finalement. C'est pas sur la question de la déportation des Juifs. Et il est entendu sous bonne garde américaine et il repart libre. On a les procès-verbaux de ces auditions. Et la France a continué à réclamer qu'il revienne. Et quand la pression a été forte et que les Américains ont voulu se débarrasser de lui, vous connaissez l'histoire, il est parti en Amérique du Sud, mais pour avoir fréquenté les archives, et notamment le dossier de 54, c'est 10 000 pages d'archives. On ne peut pas dire que la France n'a pas voulu faire revenir Barbie. Mais elle s'est heurtée au veto américain qui a empêché qu'il vienne. Et on l'a même entendu et on l'a laissé repartir dans le cas du dossier Jean Moulin. Donc c'est assez intéressant quand même, parce qu'on voit que les questions de 1987, elles émergent à la même époque que pour le procès Papon, puisque le dossier alors un peu plus tôt, on va dire, dans le, chronologiquement, puisque le, dans l'affaire Barbie, c'est Bert Klarsfeld qui va médiatiser un non-lieu prononcé en Allemagne en juillet 1971. Mais il faudra attendre l'ouverture d'une véritable instruction judiciaire, encore 6 ans, et son extradition en 1983, donc concomitamment, voilà, et on voit qu'il y a eu un phénomène historique sur la question de la Shoah qui s'est passé évidemment avec les enfants, avec la deuxième génération, à la fin des années 70 et au début des années 80, donc ça a joué un rôle évidemment important, sinon Barbie vraisemblablement serait mort en Bolivie sans poursuite. Donc il y a cette difficulté, en revanche, d'entendre les témoins. On l'a vu à l'audience en 1987, la durée a joué, d'abord parce que beaucoup des témoins étaient morts, et ce qui est intéressant, notamment parmi les femmes dont on a fait le portrait, c'est que pour certaines d'entre elles, c'est la première fois à la barre de la cour d'assises qu'elles évoquaient ce qui leur était arrivé. On a Eva Gottlieb, par exemple, qui elle est une rescapée de la rafle de la rue Sainte-Catherine. Elle a inventé un stratagème au moment de la rafle. Elle a prétexté, donc c'était au siège de l'Union Générale des Israélites de France, et elle a brandi une fausse carte d'identité en disant « moi je ne suis pas juif, je viens chercher une partition de musique », et elle a réussi à s'échapper. Sa mère était secrétaire de l'UJIF et elle a été déportée et assassinée à Auschwitz. Eva Gottlieb, elle va partir en Israël, même avant Israël, donc c'est-à-dire qu'en 1945, elle est déjà partie. Elle a quitté la France et elle ne va revenir en France pour la première fois que en mai 1987. Et elle va parler de ce qui lui est arrivé pour la première fois au procès de 1987. Elle n'en a pas parlé avant. Et même, elle se constitue partie civile à l'audience, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas été entendue par le juge d'instruction. C'est Serge Klarsfeld qui l'a retrouvée en Israël, qui l'a fait venir. Donc elle n'a même pas été confrontée à Barbie avant, et elle ne fait pas partie du dossier d'instruction. Elle s'est constituée à l'audience, et elle a hésité jusqu'au bout. C'est la même chose pour une autre des femmes, Léa Feldblum. Léa Feldblum, c'est la seule survivante de la rafle d'Izieux. Elle a accompagné les enfants d'Izieux quasiment jusqu'à la chambre à gaz. Elle a survécu parce que, jeune femme, elle a été envoyée au travail. Elle est revenue dans un état psychique et physique absolument déplorable. Et sa vie s'est arrêtée à Auschwitz, comme pour beaucoup. Et elle ne va parler des enfants d'Izieux pour la première fois, quasiment, qu'au procès Barbie. Elle ne va pas le faire avant. Donc c'est un phénomène aussi intéressant sur le fait que le procès va permettre de libérer la parole de personnes qui n'ont jamais évoqué le crime avant la barre de la cour d'assises. Et c'est assez symptomatique. On l'a vu dans d'autres procès, y compris dans le procès Touvier aussi, où on a des victimes qui sont venues parler pour la première fois de ce qui leur était arrivé à cause de la milice. Et voilà, le procès a cette vertu libératoire qui a été accentuée au procès Barbie par le fait qu'au bout de 3 jours, Barbie a quitté son procès. C'est un élément important du procès Barbie, c'est qu'au bout de... Après, en plein interrogatoire de personnalité, Vergès a glissé un petit mot, c'était scénarisé, hein. Vergès avait déjà fait la même chose un mois avant au procès de Georges Ibrahim Abdallah à Paris, et donc Vergès voulait être le seul dans le box des accusés, il était seul. Physiquement, on le voit à l'image, il n'y a plus Barbie, donc c'est lui qui devient l'intérêt, il est seul face à 40 avocats de partie civile, donc ça lui plaît, on voit qu'il joue au matador devant les autres, et Barbie a quitté son procès, et de ce fait, les paroles, on le voit, puisqu'on a la chance, grâce à la loi Badinter, d'avoir l'intégralité du procès qui a été filmé, qui est consultable à l'INA, et on voit du coup que les témoins parlent librement. Et ils parlent pour certains pour la première fois. Et dans certains cas, pour certains témoins, il a été confronté, donc il a été amené de force sur demande du président du tribunal pour voir ces témoins, et parce qu'ils n'avaient pas été confrontés lors de l'instruction. Et on voit que les témoignages sont différents, il y a de la violence. Les témoins sont déstabilisés par le fait de devoir croiser son regard, et en fait le témoignage ici, on est dans un moment judiciaire qui est beaucoup moins intéressant pour l'historien, puisque les témoignages sont moins bons, et on voit qu'il y a une tension telle que la parole n'est pas libérée. Voilà.
Les premières plaintes vous les déposez en 1981, hein, donc. Le procès a lieu en 97-98, et entre temps il y a eu en juillet 1995 où Jacques Chirac, pour la première fois, parle de la responsabilité de l'État français. Est-ce que ça a eu son importance? Est-ce que ça a pesé sur votre démarche et sur les conclusions.
Sur votre démarche, certainement pas, non. Non plus sur les conclusions, c'était trop tard. Hein. En 95, on décide du renvoi de Papon devant la cour d'assises, donc ça n'a fait que conforter, si vous voulez. C'est arrivé, par hasard, en même temps que la déclaration de Chirac, mais ça confortait l'opinion publique française dans cette vérité que nous, on transmettait, quoi, et qu'on a menée avec nous. Il n'y a pas eu de...
Non.
D'influence directe sur le... En fait, on porte plainte en 81, donc le procès a lieu et la condamnation en 98. On pourrait croire qu'il y a eu la présidence de Mitterrand qui a bloqué le procès, la procédure. C'est toute la période, en tout cas, des deux mandats de Mitterrand. Mais en fait, non, il n'y a jamais eu intervention d'un président, quel qu'il soit. Nous, on était confrontés à l'Atlantère, au second ministre de la Justice de Mitterrand, qui était notre avocat. Et ils nous ont assuré qu'à aucun moment, ils ne bloquaient le dossier. Simplement, si on prend la façon de procéder de Papon, c'est un procédurier, c'est-à-dire que dès qu'il y a un acte de justice qui est prononcé contre lui, il fait appel. Quand l'appel, il perd en appel, il se pourvoit en cassation. Voilà. Et donc il y a eu deux procédures, des actes innombrables dans le dossier. Et parallèlement à ça, il engage la justice contre nous. C'est-à-dire que mon père a été jugé pour diffamation. Les parties civiles, on a été accusés de dénonciations calomnieuses, etc., etc. En permanence, un journal fait un article contre la non-appartenance d'un réseau, le réseau Jeanne Nicole, qui était un des réseaux de résistants de Bordeaux, de Papon, mais ils portent plainte contre eux, voilà, etc., etc. Quel que soit ce qui se passe, ils portent plainte et ils font... Donc voilà, ses avocats, son premier avocat, c'était Monique Pelletier, qui était l'ancien ministre, et qui a abandonné en fait en cours de procédure, et c'est Jean-Marc Barrault qui représente Papon au moment du procès, quoi, d'assises. C'est lui le principal avocat, mais ils n'ont jamais usé de moyens détournés pour. Ils ont essayé de. Voilà, enfin, eux, enfin, je pense que pour moi, Jean-Marc Barrault, il a fait son boulot d'avocat. On ne peut pas lui reprocher. Et comme dans tout procès d'assises, un condamné a droit à utiliser tous les moyens qu'il veut pour se défendre, même de mentir, il en a usé et abusé. Juste un exemple là-dessus, parce que c'est un exemple important. Parmi les ayants droit et les victimes retenues au cours du procès Papon, il y en a 71, alors qu'il y a 1597 déportés. Pourquoi ? Mais parce que la justice bordelaise avait décidé qu'on ne jugerait Papon que sur les victimes des parties civiles, représentées par les parties civiles, donc 71 victimes. Et il se trouve que parmi ces 71 victimes, donc ma famille et puis les autres familles de parties civiles, il n'y a aucune victime qui a subi un ordre d'arrestation. Alors que dans le dossier, il y a des dizaines et des dizaines d'ordres d'arrestation signés Papon. Et donc tout le long du procès, Barrault et Papon n'arrêtent pas de dire « Je n'ai jamais signé, mon client n'a jamais signé un seul ordre d'arrestation. » Ce qui est faux actuellement, mais ce qui est vrai par rapport à la saisine de la cour d'assises. Et on a toujours été confronté à ce genre de problème.
Oui, Stéphane.
Trois choses par rapport à des éléments de comparatif. La défense de Barbie a été complètement différente. Maurice Papon a vraiment été défendu, au point de recourir en permanence contre tous les actes de la procédure, comme tu viens de dire. Vergès lui a adopté ce qu'on abusivement on appelle une défense de rupture, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas plaider le dossier. La défense de Vergès, c'est de dire « La France a commis des crimes en Algérie, de quel droit se permet-elle de juger les crimes des nazis ?» Un partout, rien circulé. Il a fait citer des victimes du FLN, de la torture en Algérie, en disant « La France n'a aucune légitimité à juger ce type de crime puisqu'elle les a commis elle-même. » C'était l'axe de défense. C'était un axe de défense lié à, effectivement, à la colonisation presque un précurseur du décolonialisme finalement, puisqu'il a introduit cette question dès le procès de 1987. En plaidant avec un avocat algérien et un avocat ivoirien, je crois, sur la question coloniale. Il n'a pas plaidé le dossier. Voilà. Il a très peu interrogé les témoins, notamment les femmes, il ne les a quasiment jamais interrogées. Et toute sa ligne de défense était celle-là. Donc on est dans un schéma complètement différent. Ensuite, sur le contexte du procès, les conséquences, parce que tu évoquais le contexte toi, de Chirac en 1995, il y a deux conséquences. C'est le réveil du négationnisme avec le procès Barbie, c'est-à-dire qu'on voit Robert Forisson qui débarque à Lyon pour le procès, qui commet un tract absolument immonde qui est envoyé aux avocats des parties civiles, et qui tracte même sur le quai Romain Rolland à proximité du tribunal. Et la première chaîne de télévision lui offre même 10 minutes d'interview sans quasiment de contradiction, où Forisson essaie de prendre la lumière du procès Barbie et déroule son argumentaire. Le contexte, c'est aussi septembre 87, donc c'est-à-dire deux mois après le procès, c'est la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Le point de détail. Au grand jury RTL, c'est deux mois après le délibéré du procès Barbie. Et de loin en loin, il va y avoir une conséquence, alors heureuse, qui est liée à ça, c'est que le législateur va se poser la question de savoir comment légiférer, justement, contre le négationnisme. Et finalement, le combat pour la loi Guesso, il est né au moment du procès Barbie. C'est-à-dire que la résurgence de propos niant l'existence de la Shoah a engagé le législateur à légiférer. Donc finalement, la loi Guesso est une héritière du procès Barbie, donc c'est un élément intéressant, ce qui n'est pas le cas pour le procès Papon, où évidemment la problématique était différente et il n'y a pas eu de conséquences judiciaires à court ou moyen terme liées au procès Papon. Il y a eu une conséquence de prise de conscience historique sur la responsabilité de la France.
Juste rajouter par rapport aux conséquences du procès Papon. Il se trouve que le procès Papon, nous on l'a appelé ça un procès pour la conscience universelle. Le premier livre que je fais, ou le premier CD-ROM dans lequel je reprends les documents du dossier, on a appelé ça un procès pour la conscience universelle. Or, juste après le procès, qu'est-ce qu'on en voit? Ce sont des nouveaux procès qui ont lieu en Allemagne contre des criminels nazis qui sont à nouveau recherchés. Et on pense que c'est directement lié à la condamnation de Papon. Ça a réveillé les consciences de façon universelle, on va dire. On parlera après du crime contre l'humanité, mais...
Avant de passer à une autre question, si vous avez des questions, on commence à les préparer, puisqu'on va faire tourner un petit peu le micro. J'ai l'impression qu'on a le sentiment, en lisant moi, le livre de Jean-Marie, qu'il n'y a pas forcément eu une unité derrière vous, des associations et des personnes directement concernées. On aurait pu s'attendre qu'il y ait une unité. Vous avez eu le même sentiment? Enfin, les faits parlent.
On n'a pas eu le sentiment, hein. On a eu le constat que ça s'est passé comme ça. Donc,
pourquoi
et pour qui d'abord? On ne va pas cacher leur nom, c'est les personnes. Je ne connais pas la raison exacte, ils ne sont jamais exprimés là-dessus. Mais à mon avis, pour les Klarsfeld, il y avait un schéma du crime contre l'humanité qui était, nous avons un auteur principal, ce sont les nazis, et nous avons des complices, ce sont les Français. Or, aujourd'hui, quand on voit la définition du crime contre l'humanité tel qu'il existe de façon irrévocable au niveau de la Cour pénale internationale, c'est toute personne qui contribue au crime est considérée comme un auteur principal. Il n'y a plus de complicité, ça n'existe pas. Je vous ferai remarquer qu'il y a encore deux procédures pour crimes contre l'humanité en France, et que c'est sur le Rwanda, et jugé par le tribunal militaire, qui s'est permis aussi de dire que de juger les militaires français pour ce crime contre l'humanité, pour complicité de crime contre l'humanité. Donc vous voyez, c'est pas encore rentré dans toutes les têtes, ça, c'est important. Donc voilà, l'éclair se fait dans cette vision. Il y a un auteur principal et il y a des complices. Pour nous, il est hors de question qu'on passe par là, d'autant plus qu'à Bordeaux, Papon a commis des... Papon et ses services hein, de la préfecture, le service des questions juives, ont commis des actes qui allaient largement au-delà des demandes allemandes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il se permet de falsifier une nationalité pour faire déporter les gens. Il fait déporter les enfants alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il n'avait aucun ordre, en tout cas, pour le faire. Voilà, deux exemples qui sont pour moi symboliques de ces... D'ailleurs, le président de la Cour d'assises, à un moment donné, dit à Papon, mais enfin, Papon, nous sommes au cœur du crime contre l'humanité. Donc c'était par rapport aux falsifications de nationalité. Et donc, Larsfeld, dès le départ, nous on porte plainte à 81, Papon est inculpé pour crime contre l'humanité en 83. Suite à son inculpation, Larsfeld dépose une dizaine de plaintes de son association, de fils et filles, etc. Et il déclare publiquement, alors qu'il n'est jamais intervenu avant, donc en 83, il déclare ouvertement, si Papon présente des excuses, les partis civils retireront leurs plaintes. Bon, heureusement, enfin, ou malheureusement, il n'a pas présenté d'excuses, mais en tout cas, nous, pour nous, il est hors de question de retirer notre plainte. Premièrement. Deuxièmement, pendant le procès, le fils Arnaud Clarsfeld n'arrête pas d'insulter le juge de la cour d'assises, il se fait remonter les bretelles à plusieurs reprises, deux fois, trois fois. Il est même condamné pour cela. On a l'acte de le condamnant, lui et son père, dans le livre. Et en janvier, c'est-à-dire le procès commence en octobre, en janvier, c'est vers la fin du procès, il déclare ouvertement, il demande la destitution du président de la cour d'assises parce que il aurait des liens de parenté avec une famille juive. Heureusement qu'il y avait certains avocats, notre avocat Gérard Boulanger, Alain Jakubowicz, qui était là tout à l'heure, qui vont soutenir le président, qui dit non, surtout, il ne faut pas écouter ce que disent les carcels et tout. Maintenez votre position, et c'est ce qu'ils ont fait. Voyez. Donc, mais en permanence, ils ont essayé de casser le procès. Alors pourquoi? Moi, j'ai une explication, enfin j'en ai eu deux au moins. C'est que pour Clarsfeld, le procès important, c'était le procès Bousquet, qui était instruit, qui allait aboutir. Il était dans une procédure, mais il avait aussi une procédure contre lui. Et malheureusement, Bousquet est assassiné quelques jours avant l'ouverture de son procès. Premièrement. Et deuxièmement, Clarsfeld, c'est quelqu'un de droite, gaulliste. Et il ne voulait pas qu'un gaulliste salisse la droite gaulliste en France. Je pense que ce sont les deux raisons. Mais moi, il ne s'est jamais expliqué là-dessus. Et puis, vous savez, le dernier événement qui a eu lieu, on parlait du détail de Jean-Marie Le Pen. Hein, son directeur de cabinet, à l'époque, c'était Louis Alliot. Et Louis Alliot a remis une récompense à Serge Clarsfeld. En fait, Clarsfeld a porté sa caution morale au Front National, enfin au Rassemblement National aujourd'hui. Ce que nous, on n'a jamais compris. Pour nous, c'est une aberration.
C'est récent, hein.
Stéphane, sur le même thème?
Sur la question de l'unité des partis civils, elle a été aussi mise à l'épreuve lors du procès Barbie, alors de manière différente et pas aussi explicite que ce que tu viens de dire. Elle a été explicite sur la question du convoi du 11 août 1944, puisque le convoi du 11 août était composé de moitié de résistants et de moitié de juifs. Certains étant dans les deux catégories d'ailleurs. Et la question s'est posée au prix d'une bataille judiciaire importante sur la question de savoir si les résistants étaient éligibles à la définition du crime contre l'humanité, puisque s'ils ne l'étaient pas, ils devenaient victimes d'un crime de guerre qui lui était prescrit, et pour lequel on n'avait pas le droit de juger Klaus Barbie, d'abord parce qu'il avait été condamné et qu'on ne l'a pas retrouvé dans les 20 ans qui ont suivi sa condamnation. Donc, et puis même des faits nouveaux étaient de toute façon prescrits puisqu'il y a une prescription plus courte évidemment pour les crimes de guerre. Et donc la question a divisé les partis civils entre les associations de résistants et les associations de la communauté juive sur la question de savoir si on prenait tout le train ou la moitié du train. Alors il y a une réponse qui n'est pas satisfaisante sur le plan, je dirais, éthique. C'est On comprend bien la différence qu'il y a entre un résistant qui a pris les armes contre l'armée allemande dans le Vercors qui se retrouve dans un train et les enfants d'Isieux qui, dont le seul crime était d'être né. Donc ça a évidemment divisé beaucoup. Il y a eu une décision de la Cour de cassation qui a établi que il était difficile même de dire dans les yeux de ceux qui ont vécu l'enfer de ce train, hein. C'est un train qui a mis 12 jours pour aller de Lyon à Auschwitz au mois d'août 1944 dans des conditions absolument épouvantables et un taux de mortalité déjà dans le train absolument terrible. Il était moralement difficile d'expliquer à ceux qui étaient dans ce même train qu'elles n'étaient pas victimes. Et la Cour de cassation a décidé de considérer, à la faveur d'une décision qui a suscité débat, hein, Alain, qui est là, en parlerait mieux que moi, sur le fait qu'elle a considéré que le fait d'avoir pris les armes contre une idéologie antisémite les rendait éligibles au statut de victime d'un crime contre l'humanité, leur permettant d'être présentes à l'audience. Alors c'était sans doute politiquement une décision compréhensible, judiciairement elle est plus difficile, et on voit notamment dans, je vous invite à revoir cet excellent film d'ailleurs qui a eu un Oscar, Hôtel Terminus d'Ophuls, où à la fin on voit Alain Finkielkraut qui est présent à toutes les audiences et il est dans la nuit du 4 juillet 1987, il attend le délibéré et puis Ophuls va l'interroger et lui dit: ce procès, je ne suis pas du tout satisfait de ce procès puisqu'on a obscurci la notion de crime contre l'humanité en intégrant les résistants. Et donc il a tout un développement qui est très intéressant sur la spécificité, l'unicité, la caractéristique de la Shoah par rapport aux résistants. Et en même temps, on comprend que la Cour de cassation est décidée dans une logique qui, elle, est très politique, hein, qui n'est pas judiciaire, de paix sociale, de réconciliation des victimes, finalement. Voilà. Et ces débats-là, ils ont eu lieu très tard. Quand il s'est agi de transformer la prison Montluc, où Barbie a renfermé 10 000 personnes, quand même, entre le 17 février 1943 et le 24 août 1944, donc c'est pas rien, il y a eu des tensions très fortes entre les associations de résistants et les associations de la communauté juive sur ce qu'on devait faire de ce lieu, avec des résistants qui voulaient en faire le lieu du martyr de la résistance à Lyon, et la communauté juive qui voulait aussi rappeler que c'était l'antichambre de Drancy, puisque c'était le lieu où Barbie a enfermé les gens avant soit des exécutions sommaires, beaucoup pour les résistants dans la région lyonnaise, soit la déportation vers Drancy ou vers Compiègne. Donc on a cet élément-là qui perdure encore. Alors ça va un petit peu mieux à Montluc, mais la division des parties civiles dans le procès Barbie, elle est surtout liée à la présence des résistants et des associations résistantes dans un procès qui ne devait être que celui de la Shoah, puisque la rafle de la rue Sainte-Catherine, c'est la Shoah intégralement, la rafle des enfants d'Isieux, c'est la Shoah. Et voilà, le convoi du 11 août, finalement, a mis le doigt sur une problématique qui permet, finalement, je trouve, pédagogiquement maintenant, d'expliquer la difficulté ou la simplicité de comprendre le crime contre l'humanité, où on voit très bien que c'est pas la même chose d'être résistant ou d'être un enfant d'Isieux. D'ailleurs, Sabine Zlatin, la fondatrice de la colonie d'Isieux, quand elle va témoigner à la barre, elle interpelle Vergès, puisque Barbie n'est pas là, elle dit: mais les enfants d'Isieux, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards? C'était des terroristes? Non, c'était des innocents. Et là, on comprend qu'elle a touché du doigt la définition du crime contre l'humanité, bon, qui a pu peut-être effectivement être obscurcie et un peu diluée, mais on comprend qu'il était difficile de dire aux victimes du convoi du 11 août qu'elles n'étaient pas victimes.
Merci. Alors écoutez, pour des raisons techniques, il y a un micro, parce qu'on n'a pas pu acheminer tout simplement d'électricité ici pour des questions de sécurité. Si vous avez des questions à poser, je vous demanderai de les poser à voix un petit peu ferme. Oui, Aris à gauche, je vous reconnais.
Monsieur Nivet, vous avez commencé en disant que dans les années 50, pour les deux premiers procès Barbie pour crime de guerre, il n'était pas question de procès pour crime contre l'humanité. Pourquoi ? L'incrimination n'existait pas, il n'y avait pas de pays.
L'incrimination, elle existe, puisque la France a signé l'accord de Londres. Oui, mais après, il y a une question d'opportunité juridique faite par le parquet et par l'instruction. Et on a décidé de ne pas mobiliser le crime contre l'humanité, mais de mobiliser le crime de guerre.
Et pourquoi les parquetiers de l'époque ?
Parce que dans la société française de 1952 et de 1954, d'abord, il faut reconnaître, et ça c'est une prévention de juristes, qui ont été d'ailleurs moins regardants quand il s'est agi de créer des sections spéciales de manière rétroactive sous Vichy, mais il y avait une prévention à l'égard de la définition du crime contre l'humanité, puisque de fait, quand on a la création du tribunal de Nuremberg, crée une incrimination pour des faits...
C'est Nuremberg qui...
Oui, c'est l'accord de Londres, en fait, qui institue le tribunal de Nuremberg et qui définit les incriminations. Et parmi ces incriminations, il y a le crime contre l'humanité, mais au moment où les nazis ont commis la Shoah, le crime contre l'humanité n'était pas un fait juridique. Il n'existait pas. On l'a créé de manière rétroactive. Et il y a eu toujours, ça explique aussi les retards, il y a l'ambiance de la société française et du fait qu'on ne voulait pas parler de ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a une prévention juridique qui consistait à un malaise des magistrats, à aller sur une incrimination qui... on était border par rapport à ces choses-là, et puis surtout beaucoup de ces magistrats avaient quand même participé aux sections spéciales. Qui, elle, avait créé de manière rétroactive, de manière grossière, je vous invite à voir l'excellent film de Costa Gavras qui s'appelle Section spéciale, qui est formidable, et qui évoque ça, mais il y a eu cette prévention-là. Et puis la société, pour vous citer un exemple, la première commémoration d'Isieux, elle a lieu le 7 avril 1946. C'est tôt par rapport à... Mais quand on regarde la revue de presse et les articles, on parle de la colonie des enfants alsaciens-mosellans. Il n'y en a pas un qui est alsacien, il n'y en a pas un qui est mosellan. Hein. Ils viennent de toute l'Europe, ils viennent de France, d'Algérie, etc. Ils sont tous juifs, mais voilà. Mais on voit la sémantique là sur le fait que aborder le fait qu'ils étaient juifs était un problème. Alors c'est abordé de manière par ellipse. Sabine Zlatin va dessiner elle-même le monument qui se trouve à Brégny-Cordon, qui est en bas de la route qui mène à Isieux. Et il y a une étoile de David sur le monument. Donc on comprend, mais on ne dit pas. On montre, voilà. Et les magistrats, au-delà des préventions juridiques, étaient à l'image de la société française à l'époque, et le crime de guerre était quelque chose qu'ils ont manié. Et puis, il y a une raison d'économie de moyens, je dirais aussi, c'est que Alain, j'avais posé la question à Alain Jakubowicz, et dit, de toute façon, crime de guerre ou crime contre l'humanité, la peine maximum était la même, c'était la peine de mort. Donc en fait, pourquoi prendre un risque juridique par rapport au crime contre l'humanité, alors que le crime de guerre permettait de les condamner à la même peine?
Ouais. Oui, sauf que le crime contre l'humanité est imprescriptible, quoi.
Depuis 64.
Oui, depuis 64. Entre Nuremberg et Papin, par exemple, la définition du crime contre l'humanité et la pratique judiciaire qui l'entoure n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que, par exemple, à Nuremberg, une victime qui vient témoigner, elle prête serment de dire la vérité, rien que la vérité. À Bordeaux, on n'a jamais prêté serment, quoi, quand on l'a déposé. Et à Bordeaux, le problème des crimes de guerre a été réglé. Il n'y avait aucun résistant qui était dans la procédure. Il n'y avait que les déportés de la Shoah. Voilà. Et puis, pour dire que ça pose toujours problème, enfin, que ça a toujours posé problème, jusque à la constitution de la Cour pénale internationale, pour moi, résout ce problème-là de façon définitive, c'est que quand la France ratifie la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le ratifie à condition que ça ne soit pas rétroactif. C'est en l'an 2000. Ça veut dire, autrement dit, on ratifie la Cour pénale internationale, mais on ne vient pas nous emmerder pour l'Indochine, l'Algérie, le Rwanda, etc. Donc, voyez, ça pèse hein, toujours. Il y a eu des plaintes pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre pour l'Indochine. Ça n'a pas été reçu, jugé recevable. Il y a eu, à Bordeaux encore, le procès des malgré nous, c'est-à-dire les soldats alsaciens qui ont participé au massacre de Radour-sur-Glane, qui ont tous été condamnés à la peine maximum à l'époque, et amnistiés après, bien sûr. Mais il y avait, donc c'était présent en permanence.
Alors moi, il me semble, on arrive un petit peu vers la fin, encore une fois, si vous avez des questions, faites signe rapidement. Juste avant, puisque je tiens le micro, je pose ma question pour finir.
Je voulais rebondir sur Radour-sur-Glane, parce que je voulais poser la question. Ouais. Sur Radour-sur-Glane, on a eu vraiment des condamnations, il y a un procès, on peut dire que les gens, c'était des victimes innocentes, elles n'avaient rien fait. C'était donc, dans ce que vous disiez, la définition d'un crime contre l'humanité. Et sous la pression de l'opinion publique alsacienne, considérant que les soldats étaient pour la plupart ce qu'on appelle des incorporés de force dans l'armée allemande, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas venus de leur plein gré, on les a graciés. Mais il n'a jamais été envisagé de revenir là-dessus plus tard ou d'engager à nouveau des poursuites.
Alors, je ne fais pas partie des intervenants, mais je trouve que j'ai fait un documentaire sur le procès de Bordeaux. Ouais. Et il y a une nuance terrible, je trouve, qui a été faite par le général Lammerding, qui commandait la division d'Assreich, et qui était à Tulle, mais qui n'était pas au Radour le lendemain. Et Lammerding fait un distinguo terrible entre les hommes qui ont été fusillés. Lammerding, dans sa tête de général SS, il dit que c'était des otages. On les a fusillés, c'est un acte de guerre. Les femmes et les enfants ont été brûlés. C'est un crime de guerre. Lammerding.
Incroyable. Ah, sur cette question-là, c'est important parce que quand on regarde la définition du crime contre l'humanité par rapport à Oradour notamment, effectivement, il faut faire le distinguo. Le fait de s'attaquer à une population civile non armée correspond à la définition du crime de guerre. Le crime contre l'humanité, c'est le fait de s'attaquer à un groupe déterminé à raison de son appartenance. Qui peut être religieuse, quoi, voilà. Mais voilà, oui, bien sûr, mais toutes les victimes sont innocentes dans les deux cas. Mais la nature du crime est quand même différente. C'est-à-dire qu'on est... Alors, on peut le contester, mais sinon, le crime contre l'humanité perd de sa force si on intègre simplement les crimes contre les populations civiles. Là, évidemment, il y a des femmes et des enfants qui ont été tués également à Oradour, mais c'est... L'appartenance à la population civile n'est pas un élément déterminant pour dire que c'est un crime contre l'humanité. C'est l'appartenance à quelque chose, l'appartenance au groupe, notamment à la communauté juive. On a un échelon supplémentaire de définition qui, alors, on est un peu dans le juridisme, mais voilà, il peut y avoir des discussions, mais là, on est, pour le coup, je pense, typiquement en radeau sur le crime de guerre, dans le sens où on est dans un massacre malheureusement typique et connu. Le fait d'aller chercher des enfants qui sont perchés sur les contreforts du Buget un matin d'avril 1944 avec des camions spécialement affrétés et de les envoyer dans une chambre à gaz au milieu de l'Europe, c'est autre chose. C'est un plan concerté d'extermination d'une population à raison de son appartenance. Et on n'est pas, je dirais, dans un... Pour moi, dans la même typologie... Alors, ça n'enlève rien à la blessure du crime, mais c'est différent.
J'ajoute pour finir avec cette histoire d'Oradour que la semaine dernière, au conseil régional d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, il y a une conseillère régionale Rassemblement National qui a ressorti devant tout le monde la théorie du clocher d'Oradour qui accuse la résistance finalement d'avoir tué les femmes et les enfants. La semaine dernière. L'affaire n'est pas finie, je pense, parce que ça a été dit en public.
Le fleuve est fidèle à sa source.
Ah, le fleuve est fidèle à sa source.
Non, aujourd'hui, les historiens aimeraient qu'on ne parle plus ni de crimes de guerre, ni de crimes contre l'humanité. Ils emploient un nouveau terme, qui est le crime de masse, voilà, qui englobe tous les crimes, quelle que soit la nature du crime. Oui, bien sûr, en fait, tous les crimes de masse...
Alors, dernière question, si vous voulez bien, à moins qu'il y en ait d'autres. Oui. Laurent, parle fort, s'il te plaît. Non, c'est
pas vraiment une question.
C'est... Journaliste à une radio de Terrasson.
Il y a quelques semaines, je faisais un reportage à Saint-Chamassy, un petit village près de Bugue, en Dordogne, où un hommage a été rendu à un amiral de la flotte française qui a sauvé 4092 Arméniens en 1915 pendant le génocide. Donc il y avait des historiens, il y avait des descendants des Arméniens qui ont survécu, il y avait des descendants de la famille de l'amiral, et apparemment cet amiral se serait appuyé sur des déclarations du gouvernement britannique et français quelques semaines auparavant, qui auraient...
C'était en 1915, il faut préciser.
1915. Alors ils n'ont pas fait, il n'y a pas eu de procès de Nuremberg, il n'y a pas eu tout ça, mais ils auraient parlé de crimes contre l'humanité, et quand lui a décidé d'envoyer des bateaux pour sauver ses Arméniens, il a envoyé sa... demande d'ordre à Paris, bon, il n'a pas eu d'ordre, mais il se serait moralement, on m'a dit, appuyé sur ce terme de crime contre l'humanité pour décider d'intervenir.
Il a utilisé le terme crime contre l'humanité en 1915.
1915 par les gouvernements anglais et britanniques, mais pas dans un cadre juridique.
Par contre, ça soulève un point intéressant par rapport à la loi Guesso, parce que peu de gens le savent maintenant, mais ça a été une difficulté d'ailleurs pour le génocide arménien. C'est que la loi Guesso, depuis la loi Égalité Citoyenneté de 2015, a été étendue à l'ensemble des crimes contre l'humanité ayant fait l'objet d'une condamnation nationale ou internationale. Donc c'est plus uniquement la Shoah. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on peut, la LICRA l'a fait, attaquer des gens qui vont nier le génocide des Tutsis. C'est possible. Et ça permet aussi de détendre un peu, parce que pendant des années, on nous a expliqué que la loi Guesso était une loi pour les Juifs. Voilà. Donc je trouve qu'elle a gagné en universalité, et c'est bien, sauf qu'elle n'a pas pu intégrer la question arménienne, puisqu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement, et donc ça avait été inscrit, il y avait une formulation qui a été inscrite dans la première version de la loi Égalité-Citoyenneté, permettant de l'intégrer dans la loi Guesso, mais le Conseil constitutionnel l'a censurée. Et donc, aujourd'hui, l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, donc la loi Guesso, permet quand même de juger des autres crimes contre l'humanité ayant fait l'objet soit de condamnations par des cours pénales internationales, soit par des juridictions nationales, mais pas pour les Arméniens. Mais je suis heureux d'apprendre qu'un amiral français a utilisé le terme. Je vais aller regarder ça avec intérêt, mais voilà.
En 1915, c'est le 12, 13 et 14 septembre 1915, l'amiral d'Artiche du Fourmet, il constate un appel à l'aide sur le mont Moussa et il demande autorisation à l'amirauté, au gouvernement français, d'aller aider ces gens. Il ne reçoit pas de réponse. Et il n'analyse pas en ces termes. Il le fait. Et bon, pour tout vous dire, je ne suis pas du tout prévu, mais je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Général d'Artiche du Fourmet, j'ai mis dans ce que j'ai écrit qu'il avait une désobéissance humanitaire, qui n'est pas du tout un terme juridique, je vous l'accorde, un peu plus artistique. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui en France, dans la vie française, dans la vie politique, entre autres, française, de ces grands procès, on va dire ça, les grands procès de l'après-guerre? Est-ce qu'il reste quelque chose, et si oui, quoi?
Pour moi, il reste quelque chose, hein, puisque je fais un cycle de conférences. Genre, je suis à 40 conférences sur le procès Papon. Alors, j'interviens dans tous les lieux qui me demandent, hein, et principalement dans les collèges et lycées. Je vais surtout me pesantir là-dessus. Dans les collèges et lycées, c'est important, maintenant qu'il n'y a plus de témoins vivants de la Shoah, que des gens comme moi, qui sont les enfants de la Shoah quand même, même si on n'est que de la deuxième génération, on puisse venir mettre des actes et des mots concrets sur ce qu'ils disent dans leur livre d'histoire. Il se trouve que l'enseignement secondaire, terminal, première, on parle de ça. C'est soit dans le cadre en ce moment de mémoire de la Shoah. Il y a quelques années, le procès Papon était au programme des collèges et des lycées. Et donc, moi, j'interviens comme ça. Le dernier en date, c'est un lycée à Libourne où je suis intervenu devant 180 élèves qui me posent des questions, qui participent, d'autant plus de façon intéressante que, en général, ils savent que je vienne à l'avance et qu'ils préparent avec leurs professeurs leur étude et leur travail, et le questionnement qu'ils peuvent se poser par rapport à ça. Voilà. Donc ça c'est quelque chose pour moi de très important. Donc qu'est-ce qui reste de ces grands procès? Mais c'est ce devoir que nous avons, nous, de transmettre. Et pour moi, c'est de faire en sorte que, ça a été dit un peu tout à l'heure, mais que les fondateurs... Alors, c'est clair que Pétain, c'était un État fasciste. Pour moi, c'est un État fasciste, ça fait aucun doute. Et que... c'est cet État fasciste-là, quand il a perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il fonde un parti qui s'appelle le Front National. On a des fondateurs clairement identifiés, soit d'anciens nazis, soit d'anciens membres du gouvernement de Vichy. Et qu'est-ce que fait aujourd'hui ce parti? Il tente de reprendre le pouvoir. Donc c'est clair que si Marine Le Pen arrive au pouvoir un jour en France, on va resubir des choses qu'on a déjà vécues il y a 70 ans. C'est évident pour moi. C'est-à-dire que certains disent « Ah ben non, on va la laisser pendant 5 ans. » Et puis après, elle reviendra à la démocratie, mais ils ne se rendent pas compte que si un jour elle revient au pouvoir, mais elle ne va pas le garder pendant 5 ans, elle va le garder beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est mon travail en tout cas que je mène en mémoire à ma famille et pour lutter contre la montée de l'extrême droite au pouvoir. Parce que pour moi, c'est malheureusement quelque chose de pas inévitable encore, mais de très dangereux.
En phase préparatoire de la montée de l'extrême droite au pouvoir, quand on voit la reprise en main de la presse, notamment, et le dernier exemple en date de Bolloré qui prend le journal du dimanche.
Patrice Rouly, historien, auteur de pas mal de voix sur la résistance.
Oui, non, c'était juste un petit commentaire par rapport à ce que disait Jean-Marie Mathison sur l'attitude extrêmement ambiguë de Serge Klarsfeld par rapport au jugement de Maurice Papon. Il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai retrouvé la trace du dernier agent, vraisemblablement, du site OSD, donc de la Gestapo, on va dire. Vraisemblablement encore vivant en France et qui était un redoutable agent du CIPOSD de l'antenne de Périgueux. Et donc, Serge Klarsfeld avait été sollicité pour voir ce qu'il était possible de faire. Il avait été jugé à mort par contumace, condamné à mort par contumace, ensuite condamné à mort à Bordeaux, puis repris en 10 jours, en 45, à perpétuité, avec le jeu des réductions qu'on connaît. Et en fait, Serge Klarsfeld n'avait pas, effectivement, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, donner suite à cette histoire qui aurait pu être intéressante parce que je pense vraiment que c'était le tout dernier agent du CIPOSD en France qui est mort là il y a 4 ans, qui s'appelait Paul Pradier, qui est redoutablement connu dans l'histoire de la résistance en dehors de nous.
Oui.
Voilà. Attitude similaire en fait.
Merci.
Je
sais pas.
Ouais. Oui, je le
bon. Vas-y.
Je le répète, sans nous, les partis civils de Bordeaux, sans ma famille, il n'y aurait jamais eu de procès de... Ça marche. Il n'y aurait jamais eu de procès de l'État français pour son rôle dans la déportation des Juifs de France. Ça, c'est une chose certaine. Ce n'est que grâce à nous qu'on a réussi à juger l'État français pour son rôle dans la déportation des Juifs de France. Et il se trouve qu'il y a eu à Toulouse une tentative de procès qui a été faite il y a quelques années, une dizaine d'années, 10 ou 20 ans, contre la SNCF. Et malheureusement, la personne qui avait porté plainte avec sa famille a retiré sa plainte, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le procès de la SNCF n'a pas pu avoir lieu en France.
On est à bout de courant électrique, je crois. Stéphane, oui, vas-y, pardon.
Est-ce qu'il y a eu un procès sur la rafle sur les livres ?
Non,
que l'État a été condamné de toute façon Bousquet.
Non, puisque...
C'est un crime de masse.
Bousquet non, ça n'a pas été jugé, tout simplement. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas été jugé.
Non.
Le seul procès, c'est le nôtre.
Le rôle de la police, je sais. Tout comme le seul procès en France d'un nazi, c'est celui de l'armée. Il y a eu, on voit qu'il y a presque une volonté de signifier qu'on l'a fait, mais on ne l'a pas fait de manière systématique. On se dit, on a jugé le nazi, on a jugé le collabo, on a jugé le milicien. Voilà.
Bon,
voilà, mais effectivement, non. Et pour revenir sur la question initiale, sur ce qui reste, on voit bien que dans l'opinion, il reste du procès Barbie que la France est sortie du procès Barbie différemment du moment où il y est entré. C'est-à-dire que la question de la Shoah a occupé. Faut avoir conscience, il y avait 700 journalistes internationaux accrédités au procès Barbie. C'est la salle des pas perdus de la cour d'assises de Lyon qui a servi parce que ça tenait plus. Donc on est vraiment dans une dimension nouvelle dans l'opinion publique sur le fait qu'on a condamné la Shoah pour la première fois en France par un tribunal français. Pas par un tribunal international comme à Nuremberg, où certes la France était représentée. Bon, la France a elle-même jugé ça. Et puis il y a un autre élément qui est important pour tous les procès qu'on évoque, c'est la loi Badinter de 1985. C'est que ces procès ont généré des archives. C'est 157 heures de vidéo pour le procès Barbie, et elles sont là. Elles nous permettent encore de les regarder, de les analyser avec le regard qui est celui d'aujourd'hui, qui sera celui des historiens dans un siècle, et qui permet de regarder cette histoire avec un matériau qui est insoupçonnable de falsification, notamment par les négationnistes. On a les témoins. Je peux vous assurer que quand j'interviens dans les lycées, je passe les extraits des mères des enfants d'Isieux, les enfants, les lycéens ressortent avec une certaine connaissance et un ressenti de cette histoire-là qui est indépassable. Parce que voilà, quand on entend les maires d'Izieux, voilà, on peut faire tous les livres qu'on veut, mais l'existence de ces archives et de la loi Badinter qui a permis d'enregistrer ces procès, c'est la même chose pour le procès Papon et c'est la même chose pour le procès Touville qui a été enregistré. Et c'est la même chose, on le verra, pour le procès des attentats de 2015. Hein. On ne peut pas les voir maintenant, mais quand on pourra analyser ces archives, c'est le fait que ces procès ont généré des archives qui seront utiles pour demain. C'est l'intérêt de ces grands procès aussi, c'est à la fois la transmission, mais le fait de demeurer source de réflexion pour l'avenir.
Et le dernier mot, vraiment, on vient de me dire, il faut arrêter. Alors, très très vite, s'il vous plaît, pardon.
Qui est, de même que vous avez initié le procès Papon, quelles sont les personnes qui ont initié le procès Barbie?
Alors, c'est Clarsfeld et quelques parties civiles lyonnaises aussi, puisque Maître Iannucci a été un des premiers à déposer une plainte. Mais il y a, mais le bon, voilà, pour à la différence de là, il y a une vraie différence entre les deux procès, c'est que la recherche des archives, la constitution des dossiers pour l'incriminer, c'est-à-dire il fallait trouver des faits nouveaux imprescriptibles. Donc ils ont trouvé la rue Sainte-Catherine, Izieux et le convoi du 11 août. Ce sont les Clarsfeld qui l'ont documenté. C'est Serge Clarsfeld qui va retrouver le télégramme d'Izieux dans lequel Barbie fait le compte-rendu de la rafle le soir du 6 avril 1944. Il va le retrouver dans les archives du CDJC qui ont été composées à partir des archives que la résistance juive notamment a fait au moment de la libération de Paris, en allant chercher immédiatement la documentation et en la sauvegardant. C'est grâce à ça qu'on a ces archives. Voilà, ce sont les Clarsfeld. Voilà.
Merci, le dernier mot donc sera Jean-Marie Matisse.
Non, juste anecdotique, tout à l'heure j'étais en train de faire des dédicaces et puis je vois une caméra qui s'approche, qui fait un plan sur moi en train de dédicacer, et j'entends le caméraman qui me dit « Monsieur Matisson ?» Oui, oui. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je dis non, j'étais au procès Papon, c'est moi qui filmais le procès. Voilà. Il était là tout à l'heure.
J'ajoute, puisque sa maman est là, que notre fils
faisait aussi partie de
l'équipe de télévision qui a filmé. Il était tout nouveau. Merci en tout cas, mesdames et messieurs, merci à nos intervenants. Vous trouverez leurs œuvres sur le salon. Bonne continuation, bonne suite de ce fabuleux week-end.
Chaud.
Oui, et tu as bien raison.
Salut.
Ouais, ça m'a fait plaisir de te voir.
Enchanté, bonsoir à tous. Voilà, je vous suis de temps en temps sur Facebook. Voilà.
Bon, ben très bien. Tout se passe comme tu veux.
Oui, ça va vite. C'est...
Ah ben là, ouais.
Parce qu'on passe la peine pour moi, parce qu'on passe un truc à l'autre.
Ah ben là, ouais.
Bonjour, vous connaissez mon papa.
Ah bon? Qui c'est votre papa?
Pierre Chevalier de
Sarre. Ah, mon vieux copain.
Jean. Qu'est-ce que t'en as des vieux copains?
Non, mais on a fait tout le primaire. On a fait tout le primaire ensemble.
Ah ben ouais,
c'est vraiment les vieux potes. Pour le saluer, ou tu le salueras.
Oui, vous avez.
Ok, ah ben super.
Ouais, on se voit de temps en temps pour des
concerts.
C'est
ce qu'il m'a dit. Voilà. Ah,
c'est super. Ouais. Bon, mais très bien. Ouais, très bien. Très, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme intervention?
On va aller trouver un peu d'air frais.
Ouais, là, ça va un peu mieux, mais tout à l'heure, au début, c'était un peu rude. Je crois que j'ai vu à peu près ce que je
faisais. Moi aussi, monsieur.
Oui,
parce
que je dois préparer.
Je vais faire
mais j'ai oublié. Ah oui, il est fou là. Ouais. Tu reviens demain?
Oui,
question. Je pense que je vais rester ce soir. Voilà.
Et
même là où tu es dormir ce soir, ça va être.
Ou du genre, ça va être. Vous avez une question sur le sujet?
C'est le chef, les gars.
Oui, oui,
c'est le grand chef.
Mais des fois, les
chefs. Les services
secrets. Il était parfaitement clair.
Merci. Si Jean-Marie.
De rien.
D'accord, merci.
Juste, je suis dans le dépôt de monsieur.
J'y étais, mais j'ai pas vu tout. J'y étais avec.
Je
se rebondir sur
oui, oui, oui.
Il y a plus d'air ici.
Non, mais il y a des gens qui sont pas nous archivés par le mal. Il y a des gens qui ont fait une petite chose qui parmi les générations. Mais on n'avait pas de
YouTube.
On en peut aussi ça.
Il y a des reconnus,
il
n'y a pas de place.
Il n'y avait pas de place. Et ils ont fait ce travail de recherche. Il y avait des institutrices dans mon village. Et non, ils ont fait un travail de recherche. C'est la plus fine. Et on n'a pas démarré. Donc, pour dire que notre travail est nécessaire.
On va chercher des verres.
J'ai eu un problème.
Ça me va.
C'est le Barnum Crédit Agricole.
Ah oui,
c'est
incroyable.
C'est le bon endroit.
Merci,
madame.
Il y en a à Bordeaux. Il y en a à Bordeaux. J'arrive au parti. Patrice, j'arrive au parti.
Je pense jamais, j'en ai deux là sur le
parti. Bon, ah oui.
On pense. Vous voulez que j'aille chercher? Oh, je peux, hein, parce que j'ai 10 minutes.
On aurait été tellement bien à l'ombre. Voilà.
Peut-être
que le soleil va
tourner. Oh non, il va pas tourner et il va chauffer de plus en plus. C'est la fatalité, oui. Ah ben oui, voilà. Non, mais c'est
j'en ai vu une autre.
On les a envoyées les photos, Michel. On m'a envoyé les photos.
Et j'ai pas pu voir parce que c'est la douille, mais j'ai rien de sur ce moment. Alors, toute la personne avec des soins. Alors, bien sûr, madame, soit c'est le financement, soit c'est l'uniformologie. C'est que j'ai vu qu'il y a des détails, il y a des soins. C'est que j'ai vu qu'il y a des soins. Le gars, il a fait ça. Mais bon, hein. Soit il a fait pour situer, en fait, c'est peut-être le fil d'identification. À mon avis, il y a deux mains, il y a pas le même dessinateur.
Pour moi, je vais mettre. Pour moi, peut-être pas, putain.
Peut-être qu'on passe.
Comment ouais, ouais, je vais partir de ce
côté-là. Non, voilà, la salle.
Et donc, je suis tout doux et jeune, je suis pas le et on me dit sur un moment dans l'extérieur, on décrit les choses fausses, le grand humilité. Je veux dire,
c'est pas
Je vais voir pour moi.
Oui, vous en voulez un petit peu.
Je vous fournis effectivement vos fournisseurs officiels, hein. Sachez-le, hein.
Chaque fois, elle est où, ça me bête.
Il n'y a aucun souci, je vais le rappeler jusqu'au bout. C'est tellement chaud qu'il faut boire, hein.
Oui.
C'est très important, hein.
Surtout pour le vieux comme moi.
Ah, mais même les jeunes. Il n'y a pas d'âge pour la chaleur.
Merci beaucoup, madame. Merci. Muchas gracias.
Vous me rappelez si j'ai soif.
Hein. Vous, il faut me dire votre prénom au moins.
Victoire.
C'est X. Comment c'est X?
Enchanté.
Et moi, c'est Edouard.
Enchanté. Bon, je suis là sur les besoins.
Tout à l'heure.
Merci, madame.
Quand elle était petite, elle venait à
Il n'y a pas les noms, non?
Non.
Bah, je vais vous les présenter.
Ben, voilà.
Ils sont que deux. Je vais enlever la casquette, je vais mettre les lunettes.
Ah, mais oui, mais vous
Ah non, madame. France 3 Périgord. C'est-à-dire qu'il y a l'image, en plus du son, elle est en couleur et on gagne beaucoup plus que.
Vous savez, ma femme, elle est pays voisine. J'ai une très ancienne famille. Et moi, c'est ma femme. J'habite ici depuis 40 ans. Je suis chilien.
Chilien, ah d'accord.
Et on connaît, on s'est croisé
parfois. Ouais, ouais.
Mais oui.
Ah ben oui, ben j'espère.
À la télé.
Et oui. Et il y a Eduardo Castillo. Il est chilien, non? Il y a un monsieur qui est auteur. Je crois.
Eduardo Castillo.
Ouais, qui a écrit un livre avec Michel Perrault.
Oui.
Ouais, qui est très bien.
Mais
il est là, oui, Eduardo.
Moi aussi, je suis Eduardo.
Eh ben voilà.
Léon. Alors, qui c'est que vous avez quand même
visité Zora Bitan.
C'est
pas du tout, c'est du vrai. Et Hassem Chalgoumi.
Hein? Hassem Chalgoumi, l'imam. C'est pas moi, Mali, je ne sais pas, oui. Alors,
je ne sais pas qui c'est.
Je ne sais pas qui c'est.
En tout cas, il répond plus au téléphone. Il répond plus au téléphone.
Ah oui, il répond plus au téléphone parce qu'on essaie d'avoir une histoire après.
Oui, c'est une dame.
Les ?
C'est une dame.
L'imam.
Dame.
Zora, Bitan est derrière. Vous avez fait combien de conférences ? Vous avez choisi le
la fraternité.